France Culture.
Reprenez donc vos places, les midis de culture reviennent. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Mélodie Richard et Eric Elmosnino. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Et rebonjour Marie.
Et bonjour à tous. Nous fêtons aujourd'hui les 130 ans de l'invention du cinéma par les Frères Lumière. Si leur sortie d'usine à Lyon est désormais célèbre, ils ont tourné des centaines de films dont la durée était fixée à 50 secondes à Lyon, à Paris et puis aussi dans le monde entier. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et gardien du Temple, réalise un documentaire pour que tous puissent voir sur grand écran ses premières vues du cinéma. Thierry Frémaux, bonjour.
Bonjour.
Le film qui sort en salle demain, Lumière, l'aventure continue, est composé de 120 films dans ses vues des origines du cinéma. C'est non seulement l'histoire du 7e art qui naît, mais c'est aussi et déjà des propositions artistiques. On vous entend dire d'ailleurs en voix off que Lumière, c'est déjà du cinéma. C'était important pour vous de parler d'esthétique dans ce film-là ?
C'était important parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que la place de Lumière a toujours été un peu étrange, pas tout à fait inventeur, parce qu'il y en aurait d'autres avant lui, pas tout à fait cinéaste, parce que Méliès arrive très vite. Et en fait, il est tout à fait un inventeur, il n'est pas tout seul, en effet, mais il est bel et bien l'inventeur, puisqu'après lui, il n'y en a pas. Bon. Et il est tout à fait cinéaste, c'est ça. Ça se savait, nous, les spécialistes, évidemment, depuis longtemps, mais il fallait le montrer au grand public. Alors, on avait fait un premier film il y a quelques années, et là, celui-là insiste encore plus sur l'idée qu'il y a de la mise en scène partout, mais mieux que ça encore, c'est comment écrire avec la caméra. J'ai une caméra, j'en fais quoi? Je la mets où? J'ai envie de raconter quoi? Et Lumière et ses opérateurs ont vraiment laissé une trace qu'on retrouve en écho dans l'histoire du cinéma. Et voir les films Lumière, c'est pas quelque chose d'ennuyeux qu'on irait voir de manière un peu studieuse. C'est vraiment déjà un plaisir de cinéma.
Mais oui, et c'est aussi une école du regard. Hein. Le spectateur, finalement, a 50 secondes pour se laisser happer par un plan.
Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et parfois, des films de 50 secondes vous paraissent durer plus longtemps dans le côté élégiaque d'un travelling sur un fleuve, etc. Et oui, c'est le cas du cinéma muet en général, mais spécialement de ces films-là. Oui, c'est une sorte de réapprentissage du regard. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer et comment je m'implique en regardant en haut, en bas, à gauche, à droite. Je m'interroge sur ce film. Et ça, on le fait peut-être plus assez aujourd'hui. On est trop souvent passif face aux images.
Ce qui m'a beaucoup marqué en regardant ce film, c'est que l'appareil, lui, ne peut pas bouger. Et pourtant, ces films-là sont avant tout des chorégraphies, tout est mouvement. Et en fait, vous l'expliquez d'ailleurs au début du film, c'est l'étymologie même du mot cinématographe, le mouvement.
Oui, ça veut dire écrire le mouvement. Alors à l'époque, c'était beaucoup pour se différencier de la photographie. D'ailleurs, on appelait ça la photographie animée. Mais on s'aperçoit à quel point ils avaient ça au cœur. Et le mouvement dans le mouvement est apparu très vite. Alors, la caméra, en effet, n'avait pas de viseur, ne pouvait pas panoter. Donc, il fallait la placer sur des véhicules en mouvement, un bateau, un tramway, un train, etc. Et ça crée du mouvement. En fait, très rapidement, Lumière a ouvert des salles de cinéma partout. Donc, il fallait les alimenter. Donc, il fallait faire des films. C'était d'ailleurs son grand débat avec l'Américain Thomas Edison, qui disait, mais le Français est fou. Alors, donc, il met tout le monde dans la même pièce. Et puis, une fois que les gens auront vu les films, ils ne reviendront pas. Si, Lumière comprend que des films, il faut en faire, et il en fait 2000. Donc, pour quelqu'un qui prétendument ne croyait pas à sa propre invention, si, il y croyait. La seule chose, c'est qu'il a fait du cinéma une petite dizaine d'années, et puis après, il est passé à autre chose.
Mais ça veut dire que ces films-là étaient d'abord pensés pour plaire au public ?
Oui. C'est ça qui est formidable. Alors, il n'y a pas d'archives. Donc, on est obligé, c'est comme Shakespeare, hein, on ne sait rien sur Shakespeare. Il faut faire des hypothèses. Et bien, sur Lumière, aussi, il faut faire les hypothèses. Il y a beaucoup d'archives techniques sur l'invention, mais il n'y a pas d'archives sur ce qu'était Lumière cinéaste. D'ailleurs, lui-même se déclassait un peu en disant « Non, mais on a fait du cinéma comme ça, on a laissé ça aux artistes. » Or, le film prouve qu'il n'est pas du tout ce monsieur Jourdain qui aurait fait du cinéma sans le savoir. Il sait ce qu'il fait, il l'enseigne à ses opérateurs, parce qu'il y a quand même des grands, comment dire, des dimensions qu'on retrouve dans les films Lumière, même quand ils ont été faits par un opérateur au bout du monde. On lui disait, voilà, va dans la rue, va dans les gares, essaye d'attraper ce qui est de nature un peu historique, anecdotique. Or, l'anecdote n'est jamais pittoresque chez Lumière. C'est toujours authentique, voire anthropologique. Un repas japonais filmé à hauteur de tatami, on a déjà l'impression qu'on est en effet chez Ozu.
Alors, vous l'avez dit, il y a en effet les frères Lumière, mais il y a aussi tous ces opérateurs. La ville de Lyon, évidemment, est beaucoup filmée, celle de Paris aussi, mais on a des vues beaucoup plus lointaines, qu'on pourrait qualifier d'exotiques, en tout cas à l'époque. Est-ce que toutes ces images inédites, elles sont encore émouvantes aujourd'hui pour des spectateurs de 2025 qui pourtant ont pu voyager, ont pu voir ces pays-là? Comment cette émotion, elle naît de ces plans? Je me souviens notamment d'un paysan japonais dans une rizière en train de faire tourner une aube, hein, c'est ça, pour irriguer sa rizière. Ce plan, il est très étonnant, encore aujourd'hui.
Oui, il y a quelque chose de, là encore, de l'origine du cinéma. Je dis à un moment dans le film, le cinéma me dit qui je suis et me dit qui sont les autres. Et en effet, rapidement, le cinéma a permis à des gens de voyager, comme aujourd'hui encore. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les cow-boys et les Indiens, mais le cinéma m'a appris ce qu'étaient des cow-boys et des Indiens. Et à l'époque, et donc aujourd'hui, puisque l'idée de ce film, c'est de ramener le passé au présent, il y a cette double chose. On voit ces films pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un témoignage du début de siècle, très extraordinaire, mais on voit ces films avec une émotion très contemporaine, c'est-à-dire que la beauté, le piqué d'image, le point, le noir et blanc, les visages, les sourires, les paysages, tout ça nous émeut comme si ça avait été tourné hier. D'ailleurs, il y a une citation de Varda, d'Agnès Varda, qui ouvre le film. Une fois à Lyon, on a dit en fait, tous ces gens qu'on voit dans les films hier, c'est pas nos ancêtres, c'est nous, c'est nous-mêmes. Et le cinéma n'a jamais cessé de faire ça.
Oui, vous dites d'ailleurs que les films Lumière disent ce qu'était leur époque. Est-ce que vous diriez que c'est toujours vrai du cinéma aujourd'hui ?
C'est vrai en partie du cinéma, mais pas toujours. D'abord, le cinéma est partout. Hein, même un petit montage vidéo sur TikTok ou sur Instagram, c'est le langage du cinéma. Donc le cinéma est partout. Et le cinéma est partout et loin de ce que Wim Wenders, par exemple, avait dit quand il était venu à Lyon. Je lui avais montré les films Lumière. Il m'avait dit, c'est des images, c'est des films en qui on peut faire confiance. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de contamination. Aujourd'hui, même un film de cinéma assez réaliste, il va y avoir quand même peut-être un peu de trucage, un peu de correction, d'effet. Là, les Lumières, il y avait comme une sorte d'innocence qui n'est pas de la naïveté, mais ce cinéma de la simplicité est très fort. Et il y a Arnaud Desplechin qui a vu le film, m'a dit, mais moi, ce film-là, il y a des plans, ça m'interroge sur mon métier de cinéaste, quoi. Pierre-William Glenn, le chef opérateur de Truffaut et de Tavernier, qui est mort il n'y a pas longtemps, m'avait dit « Demande-moi de refaire tel mouvement d'appareil fait par la lumière, je ne peux pas faire mieux. » À l'époque, la manière de placer la caméra dans un train pour découvrir en travelling Alger, ou dans un bateau, la baie d'Alger, par exemple, il dit « On peut pas faire mieux, la caméra est sable, le cadre est parfait, voilà. » Donc, oui, je pense que, je dis un moment aussi que voir les films Lumière, ça vous nettoie les yeux. C'est important de se nettoyer les yeux parce que notre regard, il est très pollué, très contaminé par tout ce qu'on voit. Et là, c'est les premières images. Et donc, il y a quelque chose dans cette espèce de pureté originelle qui interroge les images d'aujourd'hui, c'est sûr.
Et donc, pour se nettoyer les yeux, rendez-vous en salle dès demain. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même une chance aussi de les voir en salle, ces films-là. Merci beaucoup Thierry Frémaux.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le film Blanche-Neige de Marc Webb sort en France demain.
Oui, et le film suscite déjà des polémiques, et ce depuis le début du projet. Dès 2021, le choix de Rachel Zegler, d'origine polonaise et colombienne, pour incarner Blanche-Neige irritait ceux qui ne la trouvaient pas assez blanche pour incarner l'héroïne du conte. Elle a par ailleurs qualifié le prince charmant de la version de Walt Disney de 1937, je cite, de gars qui littéralement harcèle Blanche-Neige. Et plus récemment, l'acteur Peter Dinklage, le célèbre nain stratège de Game of Thrones, a critiqué l'absence d'acteurs de petite taille dans cette nouvelle version où les nains ont disparu.
Et pour finir, Marie, la 13e édition du festival Séquence Danse commence demain au 104 à Paris.
12 spectacles de danse et 2 hors les murs sont programmés jusqu'au 13 avril. On pourra y voir notamment des formes dansées autour des textes épistolaires du chorégraphe Jean-Claude Galota avec son spectacle Cher Cinéma. La nouvelle création Milo Wing de Christophe Papadopoulos proposera une pièce d'ensemble sur de l'électro-minimaliste. Et il ne faudra pas rater le spectacle Exit Above d'après la tempête de Anna Teresa de Kirsmaker, présenté au Festival d'Avignon 2023, qui réinterprète avec joie, avec joie, les codes de la pop grâce à Shakespeare. Et comme chaque jour, bien sûr, vous retrouverez le programme de Séquence Danse sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles.